engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Dans un monde où l'humain perd de plus en plus son lien avec la nature, les MOB, Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement, proposent deux expositions naturalistes. Ces travaux, qui rappellent la biodiversité de la région, sont à l'affiche depuis le 5 octobre. Initialement, cette double exposition devait s'achever le 13 octobre, mais elle a finalement été prolongée jusqu'au 3 novembre. D'un côté, Voyage au cœur des eaux douces, du photographe Bruno Guénard. Un ensemble de photographies qui montrent les fonds aquatiques de la Loire et de ses affluents. De l'autre, la fresque de Loire, de l'ornithologue et naturaliste Denis Chavigny. Une fresque aquarellée qui représente 235 espèces d'oiseaux du plus grand fleuve de France. Ce sont deux visions complémentaires de la Loire, selon Laure Danilo, directrice de la culture scientifique et du MOB.
La fête de la science, elle est thématisée à l'échelle nationale autour des océans. Pour cette année, nous, on a choisi de s'inscrire dans ce thème et de le préciser en intitulant notre thématique « De la Loire à l'océan ». L'idée, c'est qu'on puisse permettre à chacun de prendre conscience que même si on n'habite pas sur le littoral, la question de l'eau et la question des océans est un enjeu global et qui nous concerne tous. Et donc, pour nous, c'était une manière de mettre la focale sur les milieux aquatiques de notre territoire. Et pour cela, donc, on a fait appel à ces deux artistes qui ont une vision qui est très complémentaire. L'un, du coup, photographique et qui permet d'accéder, je dirais, aux entrailles, en fait, subaquatiques, donc sous l'eau de ces milieux. Et puis l'autre qui, donc plutôt en surface cette fois, et qui va s'intéresser d'une manière d'artiste et d'interprétation finalement aussi artistique aux oiseaux qui peuplent ces milieux et qui sont aussi très spécifiques autour des milieux aquatiques. Quand on voit, en particulier, là on est devant la fresque de Denis Chavigny, qui représente une somme colossale de travail. Je crois qu'il y a 1700, mais il vous le dira plus précisément, 1700 d'individus représentés sur l'ensemble de cette fresque. Et c'est en fait ce que je trouve assez formidable chez le naturaliste, et le naturaliste qui en plus retranscrit ses observations via de l'aquarelle, c'est la patience, la capacité à observer et à rendre compte. Alors là, ici, à pouvoir aussi partager avec le public tous ces précieux moments, finalement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, où on ne prend plus le temps de regarder, d'observer. On a souvent tendance à imaginer que la biodiversité, elle est fantastique sous les tropiques. On pense aux lions, aux girafes. Et alors qu'on a des merveilles, en fait, qui sont à nos portes, mais qu'on a peut-être perdu l'habitude de prendre le temps d'observer. Donc ça, c'est ce que m'inspire beaucoup l'œuvre de Denis. Et l'œuvre de Bruno, donc cette plongée finalement subaquatique dans des environnements qui sont à la fois des cours d'eau, mais aussi des mares, me fascine énormément. Parce que là encore, quand on pense à plongée sous-marine, on s'imagine tout de suite être dans la mer Rouge ou dans les Antilles. Et on n'imagine pas un instant la beauté de ce qu'il peut y avoir sous nos eaux, y compris quand je parle d'eau comme des mares, où on a une image plutôt assez péjorative sur les mares, ouais. Parce qu'on a une image, peut-être que c'est un peu, on pense à des choses un peu sales, et je trouve que c'est, il n'y a rien de plus faux finalement, un milieu naturel, c'est pas sale, on a des tas de formes de vie très particulières qui vivent dans ces petits milieux, et donc Bruno, il a une patience sur le long terme pour aller et revenir dans un endroit plusieurs fois par an, plusieurs fois au fil des ans, et de pouvoir observer finalement l'évolution très localisée de la biodiversité dans notre territoire. Dans l'optique de partager les savoirs, il y a plusieurs manières de pouvoir y contribuer, mais l'approche sensible qui nous touche, elle est aussi extrêmement importante. Et on, Le partage de connaissances peut se faire à la fois par des données très, très brutes et très froides, mais l'intérêt de l'art, c'est qu'il permet aussi d'avoir une approche qui est beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus sensible, et a fortiori d'avoir les artistes qui sont là pour parler de leur travail et permettre aux visiteurs de comprendre ce qui, eux, les a touchés et qui a fait qu'ils ont passé ce temps et cette énergie à faire cela. Je trouve que ça peut être transformateur en fait pour le public. Il peut accéder à quelque chose, à une chose à laquelle il n'avait peut-être même pas songé, grâce finalement à la proximité avec ces artistes qui vont partager leur pratique en fait. On dit souvent, alors je ne sais pas si on le dit souvent, mais en tout cas de plus en plus dans le champ de la médiation scientifique notamment, on a bien identifié que la notion du récit et de la manière de se projeter dans un certain nombre d'imaginaires, elle était extrêmement importante pour réussir à comprendre les enjeux environnementaux ou plus largement scientifiques qui se jouent. Et en tout cas, le fait de pouvoir organiser justement cette projection dans l'imaginaire, pour ça, l'art est très utile. L'art, il est très utile parce qu'il permet d'aider à construire ces imaginaires, à ce qu'ils revêtent une forme plus concrète pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine ni scientifique ni artistique. Et du coup, de faire un pont entre ces questions artistiques et scientifiques, et en l'occurrence là, le monde naturel, pour moi, est un enjeu important pour peut-être toucher des personnes qui auraient plus de difficultés à rentrer dans des données peut-être plus brutes et plus froides. Quand on voit les expositions, là, les deux expositions qu'on a ici, leur dimension artistique leur permet de révéler quelque chose aux visiteurs. Et donc de révéler ce qu'on entend derrière, c'est qu'il peut y avoir aussi une prise de conscience. Donc en ça, je pense que ça peut être un levier important. Et après, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est que d'autres formes artistiques peuvent aussi se permettre de nous aider à nous projeter dans une transition désirable et de se dire que la transition n'est pas forcément quelque chose qu'on doit subir avec un faisceau de contraintes, mais ça peut nous permettre de réenchanter finalement le milieu naturel qu'on essaie de préserver et que le préserver ne soit plus vu comme une contrainte mais comme une richesse.
L'exposition Voyage au cœur des eaux douces de Bruno Guénard est composée de 15 photographies prises soit dans la Loire, soit dans le Cher. Il y a des photos grand angle pour montrer l'ambiance autour de ces points d'eau, ainsi que des photos macro qui témoignent de la vie aquatique. Une exposition qui va du plus gros des poissons, comme le silure qui peut dépasser les 2,50 m, jusqu'à le plus petit des sujets, comme le plancton, qui fait 2 ou 3 mm de long. Originaire du Loir-et-Cher, le photographe amateur Bruno Guénard est passionné par la photo sous-marine depuis 25 ans, une activité qu'il pratique en rivière, en mar ou au niveau de la mer. Dans sa vie, c'est la nature qui est arrivée en premier, ce qui l'a orienté vers la plongée et ensuite la plongée qui l'a dirigé vers la photo.
Ça fait 25 ans maintenant que je fais de la photo sous-marine en rivière et en mar, et un petit peu plus longtemps au niveau de la mer. J'ai parcouru un petit peu la planète au niveau de la mer, donc différents pays comme l'Amérique, les États-Unis avec l'Alaska, la Russie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les Tonga aussi par exemple. Et j'ai une passion pour l'eau douce, donc et dans la région en tout cas, ça sera la rivière Le Cher ou la Loire pour les plongées et les points d'eau qui sont autour de ces rivières ou de ce fleuve. Là, il y a 15 photographies qui sont prises soit dans la Loire, soit dans le Cher. Donc des photographies grand angle pour montrer un petit peu l'ambiance que l'on peut retrouver dans ces points d'eau. Avec du plus gros des poissons qu'on peut avoir, nous, c'est le silure. Donc des poissons qui peuvent dépasser allègrement les 2,50 m, hein, que je croise de temps en temps, qui sont des poissons fort sympathiques. Au plus petit des sujets, comme le plancton, que je peux aussi photographier. Donc ça impose un matériel légèrement différent entre prendre quelque chose qui fait 2 mètres de long et quelque chose qui fait 2-3 mm de long. Donc dans cette exposition, je montre un petit peu tout ça, du plus petit des sujets au plus gros des sujets, en passant par des cendres, des carpes, des brochets, un petit peu ce qu'on peut retrouver de commun dans nos rivières. C'est d'abord la plongée qui m'a orienté vers la nature et ensuite vers la photo. La plongée, je l'ai commencé il y a 30 ans, donc ça fait autour de 28 ans. Donc 28 ans et après je me suis orienté d'abord vers la mer et ensuite vers les eaux douces. Et maintenant je plonge plus en eau douce qu'en mer. Je me suis pris une passion pour l'eau douce et depuis 25 ans en fait j'essaye de suivre l'évolution des espèces dans les mares et dans les rivières, fleuves ici pour voir la pollution, pour voir les espèces qui changent, les espèces invasives, les espèces qui disparaissent, puisque c'est régulièrement qu'il y a des nouvelles espèces qui apparaissent et certaines que je ne vois plus du tout.
Et pourquoi vous intéresse l'évolution de la vie des espèces ?
Pour voir comment l'évolution de l'être humain a une influence sur l'évolution des espèces. Ici, donc tout ce qui est pollution, qui peuvent être pollution plastique, pollution due aux médicaments aussi, hein, parce que tout ce qui est rejet par l'homme a une influence forcément dans ce qui se passe dans l'eau. Tout ce qui est rejet par l'agriculture aussi, hein, faut pas se leurrer, l'agriculture a une partie de la pollution. Il n'y a pas que, mais ça en fait aussi partie. Et ça, j'essaye de le suivre régulièrement. Puis après, bah, on retrouve la pollution standard de l'homme, c'est-à-dire les carcasses de voitures, les motos et tout un tas de matériel qu'on peut retrouver dans l'eau et qui pollue l'ensemble des rivières.
Et quel est l'impact de la pollution dans la vie des espèces ?
Dans la vie, ça peut être les espèces invasives, comme la jussie, qui est une plante qui envahit toutes nos rivières actuellement. Et cette plante, on n'a pas trouvé encore de moyens pour la faire disparaître. Et en fait, elle gagne du terrain dans toutes les rivières, ce qui va finir par asphyxier les rivières et donc faire disparaître toute la vie ici. Après, il y a tout ce qui est pollution qu'on ne voit pas, justement, par l'agriculture, ainsi de suite, qui amène des algues dans la rivière. Et ces algues peuvent, de temps en temps, être mortelles pour les animaux aussi. Hein. Il y a des chiens qui meurent en mangeant ces algues, ce genre de choses. Et donc, ça prend tout l'oxygène qu'on va retrouver dans la rivière. Et sans oxygène, il n'y a pas de vie, de toute façon. Donc, ces algues gagnent aussi de plus en plus de terrain, surtout en période de sécheresse, comme on les a eues ces dernières années. Je dirais qu'actuellement, avec ce qui tombe comme eau depuis un an, ça a tendance à nettoyer les rivières. Donc, c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui se déversent en plus dans nos rivières.
Et comment vous choisissez les moments exacts pour prendre une photo ?
C'est plutôt le poisson qui va m'indiquer le moment exact, hein, ou l'écrevisse, ou le sujet. En fait, j'essaye de trouver aussi un arrière-plan qui va satisfaire par rapport au sujet, ne pas avoir un arrière-plan moche, puisque le sujet ne ressortira pas suffisamment bien par rapport à cet arrière-plan. Et après, quelquefois, les sujets sont tellement rares qu'on l'instant, on ne le choisit pas, on est obligé de faire la photo. Que les conditions soient là ou que les conditions ne soient pas là. Quoi. En fait, c'est eux, globalement, qui décident quand je vais faire la photo en fonction de leur position, de l'éclairage, puisque je travaille, quand je suis avec un grand angle, je travaille en lumière naturelle, contrairement à la macro, donc les petits sujets, où là, je travaille avec des flashs. Je prends tout ce qui passe devant moi, donc je ne choisis pas, c'est surtout en fait une position, une prédation, un accouplement, ce genre de choses qui fait que je vais prendre, même si j'ai peut-être 100, 200, 500 fois l'espèce déjà prise en photo, si un moment que je n'ai pas encore vu vient devant moi, je prendrai forcément la photo, même si le sujet est très très courant au niveau des rivières. Hein. C'est un comportement qui me fera prendre une photo plus qu'un sujet quelque part. Du plancton au silure, de toute façon, c'est une chaîne complète et c'est aussi une chaîne alimentaire. Hein. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'intéresse plus aux gros qu'aux petits. Ils ont chacun leur rôle dans la nature, et chacun leur rôle est important pour la totalité de cette chaîne. Ici. Donc je n'ai pas de préférence entre le gros et le petit. Pour moi, ça a autant d'intérêt les uns que les autres.
Qu'est-ce que l'art a apporté à votre vie ?
Oula ! l'art, ça fait partie complètement de la vie de tout un chacun, je dirais, moi comme les autres. Hein. Ça nous fait évoluer, je dirais, sur notre regard, mais il n'y a pas que l'art, il y a aussi le partage avec les communautés qui nous fait évoluer. Quand je pars en voyage à l'autre bout de la planète, et que je rencontre des personnes qui ont une façon de penser complètement différente de la mienne, ça aussi, ça va me faire évoluer. Et c'est un petit peu pareil dans tous les pays ou tous les continents où j'ai pu aller. L'art fait partie de la communauté aussi. Donc ça fait évoluer aussi bien au niveau de l'art que de la communauté et surtout de ma façon de penser par rapport à ce qui m'a été éduqué ici, qui n'est pas la pensée unique quelque part.
Quelle réaction ou réponse voulez-vous provoquer avec votre œuvre ?
Que les gens se rendent compte qu'à leur porte, il suffit d'aller mettre la tête dans l'eau qu'ils peuvent voir des choses extraordinaires. Il y a qu'il n'y a pas forcément besoin pour voir des choses dans l'eau d'aller dans d'autres continents. On verra forcément d'autres choses, mais chez nous, on a aussi des choses extraordinaires qui sont à la portée de tout le monde quelque part.
Avez-vous remarqué une dégradation du milieu naturel dans les dernières années ?
En 25 ans, oui, j'ai remarqué pas mal d'évolutions, justement au niveau des algues de pollution qui n'étaient pas du tout présentes il y a 25 ans, qui maintenant... Dès qu'on a un peu de sécheresse, il y en a partout, hein, dans les rivières, dans les mares, ce genre de choses. L'évolution au niveau des espèces, hein, puisqu'il y a des espèces invasives, comme par exemple l'écrevisse de Louisiane, qui a fait disparaître complètement l'écrevisse française dans nos régions. Et comme tout à l'heure j'en avais parlé, la jussie, qui sont des plantes invasives, celle-ci vient d'Amazonie, et qu'on ne sait pas détruire. Et il y a aussi d'autres espèces de poissons qui sont importées. Le silure, tout le monde critique le silure, mais le silure, il a été importé par les pêcheurs parce qu'ils voulaient prendre des gros poissons. Maintenant, on a beaucoup de pêcheurs qui critiquent le silure, mais quelque part, c'est eux qui ont fait le mal à la rivière, hein, si on peut dire le mal, puisque maintenant, ils ont pris leur place dans la rivière. Et je vois toujours des carpes, je vois toujours des brochets, je vois toujours des cendres. Donc, on a fait aussi une mauvaise réputation à ce poisson-là, qui n'est pas, de mon point de vue, forcément justifié. Mes photos, en fait, sont partagées dans pas mal de magazines, en fait, pour faire ressortir des sujets plus que d'autres. Dans les conservatoires aussi, elles sont utilisées, quelquefois. Ou alors, des associations me les demandent pour montrer un petit peu ce qu'on va retrouver dans nos régions ou ce qu'on va retrouver en France au niveau de la vie sous-marine, ici. Donc, c'est par ce biais-là que je pense qu'on peut montrer aux gens ce qu'ils ont à côté de chez eux et ce qu'il faut préserver. Ici, comme par exemple les tritons, les grenouilles, ce genre de choses qui a énormément disparu depuis, ou diminué depuis 50 ans et qu'il faut continuer à préserver en maintenant ces trous d'eau qui sont relativement importants pour nous et qui, entre autres, hein, ces animaux-là, ils vont manger les moustiques, ce qui nous évitera d'envoyer des pesticides partout pour détruire les moustiques par la suite, ce qu'on fait avec des hélicoptères, des avions, ici, en laissant tranquillement vivre la faune aquatique, et une partie des problèmes qui seraient résolus.
Composé de 10 panneaux qui compilent 3 années de croquis de terrain et 1700 aquarelles, la fresque de Loire a été finie par Denis Chavigny il y a 10 ans comme un exercice personnel sans vocation d'être exposée.
Je m'appelle Denis Chavigny, je suis artiste peintre professionnel. Maintenant à la retraite, en théorie, mais on n'est jamais à la retraite quand c'est un métier passion. Qu'est-ce que je peux dire ? J'habite à Sully-sur-Loire. Ma passion, avant tout, c'est l'ornithologie.
Denis Chavigny est né en Beauce, dans la région Centre-Val de Loire. De formation scientifique en ornithologie et taxidermie, il est progressivement passé à des recherches éthologiques et esthétiques. Il n'a jamais pris des cours de peinture. Tout ce qu'il sait sur le dessin et l'aquarelle, il l'a appris de façon autodidacte. Le naturaliste a commencé à vivre de son travail artistique à l'âge de 39 ans. Il revendique toujours son profil scientifique plutôt que son côté artistique. Pour lui, ce qui compte, c'est l'exactitude et la fidélité de la vérité de ses représentations. Mais si dans cet effort, il arrive à créer de belles images, tant mieux.
Je me définis plus comme un peintre, comme un ornithologue qui peint, que plutôt comme un peintre qui fait des oiseaux. Avant tout, le côté scientifique, l'observation de la nature est plus importante pour moi que l'art, entre guillemets. Si c'est beau, ben, tant mieux, hein, c'est ce que j'essaye quand même que ça soit beau. Mm-hmm. Mais avant tout, il faut que ça soit exact. Il faut que tout ce que je fais, c'est toujours des croquis qui sont relevés directement dans le terrain, sur mes carnets. À ce jour, j'en suis à 42 100 croquis et aquarelles de terrain. Bon, j'ai un choix énorme si je veux illustrer soit pour un tableau, soit pour une étude, soit pour un livre. J'ai publié 6 livres à ce jour. Donc, c'est mon capital, si vous voulez. Tous les jours, je sors, en principe. Quand à la belle saison, c'est-à-dire de la mi-avril jusqu'à la mi-septembre, je sors tous les jours, à vélo souvent, une heure avant le lever du soleil, je pars dans le noir, et après je m'installe suivant ce que je peux voir, je m'arrête là où ça me semble favorable, Et à 10h, c'est fini. Pour moi, à 10h du matin, c'est terminé. C'est toujours... D'ailleurs, il y a moins d'humains, il y a moins de dérangements. Puis c'est une heure propice le matin, c'est merveilleux. J'ai toujours été... Je suis né en Beauce, là, ici, dans la région. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'oiseaux. C'était maintenant, parce que l'agriculture est devenue industrielle et beaucoup trop impactante pour la nature. Et la peinture est venue très tard, malheureusement, parce que j'ai plein d'images dans la tête de choses que j'ai vues quand j'étais jeune et adolescent. Et tout. Je ne dessinais pas à l'époque. Donc je n'ai commencé qu'à l'âge de 39 ans à être vraiment peintre et à vivre de ma peinture. La fresque qui est ici, qui est finie, qui est achevée depuis 2014. Il y a déjà 10 ans qu'elle est finie. Je ne l'ai fait que pour moi. Elle devait pratiquement jamais être exposée. Je n'y pensais pas. Donc j'ai commencé il y a encore 3 ans avant 2014. Et je voulais représenter toutes les espèces que je dessinais entre les deux rives de la Loire, autour de Sully, sur 10 kilomètres. Donc il fallait que les oiseaux soient vraiment entre les deux rives. C'était une lubie, si on veut. C'était un oiseau qui était de l'autre côté de la levée, dans un champ. Je ne le mettais pas parce qu'il n'était pas sur mon réseau de Loire. Donc j'ai commencé comme ça, une fois que c'était commencé, j'ai poursuivi toujours. Donc je suis arrivé à 235 espèces vues. Mais là, sur la fresque en elle-même, il y a des espèces qui sont 30 fois, 40 fois, parce qu'évidemment il y en a 1600 pour 35 espèces. Donc il y a des espèces que je vois tous les jours et d'autres que j'ai vues qu'une seule fois. Il y a quand même quelques espèces très rares que j'ai pu voir au hasard, parce que les oiseaux... par définition, ça vole et il y a toujours des oiseaux qui n'ont théoriquement rien à faire avec la Loire, qui se retrouvent là un jour. Donc j'ai eu des oiseaux même américains, la sarcelle à aile verte, qui est américaine, complètement américaine. Bon, un jour, je suis tombé sur un oiseau égaré. J'ai aussi un flamant rose une fois sur la Loire, puis d'autres espèces, mais... En espèces courantes, il y a quand même de quoi faire. C'est très riche. On a cette chance d'avoir un fleuve vraiment sauvage. C'est vrai que c'est magnifique, la Loire. Je ne pourrais plus m'en partir. Moi qui étais un Beauceron terrien, vraiment, l'eau ne comptait pas pour moi. Pour moi, maintenant, la Loire, c'est merveilleux. C'est une question d'adrénaline, une question de... Il y a plusieurs cas. Bon, si c'est une espèce très rare... Ça part tout seul, je suis obligé de dessiner tout de suite, l'émotion elle est très trop. Après, il peut y avoir des circonstances qui font que le décor, ou les attitudes, il peut y avoir une scène où il y a un accouplement, une scène où il y a une bagarre, où un rapace capture quelque chose, ça c'est évident, c'est fort. Bon, après, une scène très très plate comme ça, ça peut très bien pas du tout m'intéresser, hein, il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose. Donc je dessine un croquis sur mon carnet. Je mets une minute. Maximum une minute. Mais par contre, j'aquarelle aussi sur le terrain, sur mon carnet, je peux mettre une heure. C'est très différent parce que je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours de peinture. Donc ça s'est fait petit à petit. Et donc je suis assez laborieux de ce côté-là. Du moment que je suis fidèle à la vérité, entre guillemets, scientifique, c'est ça qui m'importe le plus. Il va y avoir de questions que je fasse une chose qui ne corresponde pas à l'oiseau, quoi. Je fais aussi d'autres, quand même, les mammifères. Si je vois un renard, là, je vais le dessiner, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire que si vous vous baladez dans la nature, en une journée, vous avez les chances de voir... très facilement, 30, 40 espèces d'oiseaux. Et si vous voyez plus de 2 espèces de mammifères, c'est déjà bien, quoi. C'est quand même beaucoup plus difficile. Les mammifères, c'est aussi pas les mêmes horaires. Souvent, c'est plutôt crépusculaire, parce que à cause de la persécution humaine, tout, ils se cachent. Il n'y a quand même pas beaucoup de mammifères qu'on peut voir partout. Et après, il y a le monde des insectes. Alors ça, c'est immense. Je connais pas assez, quoi. C'est vraiment, et il y a tellement de choses, les plantes, je pourrais faire aussi, plein de choses. Tout est beau, hein, dans la nature. Donc moi, ça a été fixé plus sur les oiseaux, c'est sûr que c'est quand même ça qui fait ma recherche principale. Je ne montre que le beau. J'ai déjà fait des missions avec plusieurs artistes du monde entier, aussi bien africains, asiatiques, américains, pour certaines actions. Par exemple, c'était pour la sauvegarde de la Loire, justement du côté de Saint-Nazaire, là-bas. Et j'ai d'autres de mes collègues qui peignaient les atteintes. Donc, alors, tous les débris, les choses cassées, la pollution et tout. Et moi, je préfère montrer le beau. On ne peut pas dire aux gens de protéger une chose s'ils ne sont pas convaincus que c'est vraiment une chose qui a de la valeur. Pour moi, il faut déjà que les gens aiment pour protéger. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, j'aime le beau. Enfin, le beau. Le plus naturel possible, quoi.
Avez-vous remarqué une dégradation du milieu naturel dans les dernières années ?
Ben oui. Vous avez de très bonnes questions. C'est très juste. Bien sûr, bien sûr. Maintenant que j'ai un certain âge... nous voyageons beaucoup avec ma femme parce qu'on fait, je fais tout normalement avec mon épouse dès que c'est extérieur à le petit coin de Loire. Et il y a des endroits où on a vu, par exemple en Scandinavie, qui est pourtant on dit, bah, là-bas au Cap Nord c'est très beau et tout, en nord de la Norvège, le plus haut qu'on puisse faire en Europe. Mmh. Notre premier voyage ça devait être 79. Et en y retournant on voit que tout a changé, vraiment, vraiment radicalement tout changé malheureusement. Et il y a plein d'endroits comme ça que je peux situer, ça peut être au Portugal, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et partout. C'est, ouais. L'homme est trop, comment dire, ils sont peut-être trop nombreux aussi et puis... Non, c'est assez tragique. Et puis il y a aussi, malheureusement, l'agriculture qui a beaucoup changé. L'agriculture, c'est un gros, quand même un grand problème. C'est devenu une industrie, c'est plus du tout un truc artisanal. Donc là, on modifie l'habitat complètement. Donc là, c'est terminé pour beaucoup d'espèces.
Et à la Loire, vous avez vu des changements ?
Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Là, c'est différentes causes. Par exemple, on a des espèces en plus. Alors, les gens disent c'est formidable, oh là là, et tout. Mais oui, c'est. Par exemple, dans la famille des hérons, il y a des aigrettes et tout qu'on n'en voyait pas avant et tout. Mais typiquement une fausse mode nouvelle. C'est parce qu'avant, ils nichaient plus au sud et que ça devient un désert. Donc, ils montent, ils viennent chez nous. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Puis après, il y a des espèces introduites. On en a de plus en plus. Hein, de plus en plus d'espèces. Qui sont importés et puis pour la décoration et tout, et puis qui s'implantent vraiment en France. Hein. Vous avez des perruches partout, vous avez une quantité d'oiseaux qui font du tort aux espèces qui existaient avant.
Pensez-vous que le travail et que votre travail peut aider à la préservation de l'environnement ?
Ben, j'aimerais bien, hein, mais j'aimerais bien. Et le problème, c'est que bon. C'est pas très 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 médiatique, faut bien dire. Hein. On parle plus de choses. Tu vas regarder les informations générales. Bon, c'est pas ce qui vient en premier, hein, la défense des petits. Ou alors c'est tourné en dérision. On se moque un peu de l'aspect un peu cucu des amoureux de la nature. Quoi. Mais c'est un peu dommage parce que on en crèvera, hein, si on fait pas. Ça va trop loin là maintenant, c'est sûr que ça... Moi je suis très pessimiste, hein. Je suis très 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 pessimiste. J'ai assez de recul pour me dire que ça va pas aller dans le bon sens. Je suis beaucoup voyagé aussi même dans le monde, de l'Inde à l'Argentine, à l'Afrique du Sud, aux États-Unis, enfin non, le Canada plutôt. Et je vois bien que c'est mondial quoi, tout est mondial maintenant. C'est l'argent aussi quand même beaucoup qui guide le monde. Les idéologies qui peuvent être aussi meurtrières pour certaines choses, même pour la nature, hein, des régimes autoritaires qui peuvent être vraiment une catastrophe totale par des mauvaises décisions, qui pourraient être bien dans l'autre sens, mais bon. Enfin, bon, il faut terminer sur du beau et il y a encore plein de belles choses. J'invite tout le monde à aller encore se balader parce que ça coûte rien et c'est acheter juste une petite paire de jumelles, ça suffit. C'est quand même bien d'avoir au moins une jumelle. Vous voyez quand même des choses et vous dérangez moins. Hein. C'est quand même intéressant de les voir au naturel, quoi. Profitez-en tous.
Heureusement pour Denis Chavigny, des espaces comme les MOB existent encore pour servir de vitrine à l'art inspiré de la nature et pour éviter le silence par rapport aux questions environnementales. C'est ainsi que les plus grands musées scientifiques d'Orléans s'ouvrent de plus en plus à l'art, un outil puissant pour toucher la sensibilité du public et pour construire des imaginaires qui organisent les données brutes et froides de la science. En bref, comme l'explique Laure Danilo, l'art inspiré de la nature est une voie pour toucher des personnes qui ne sont pas forcément dans les domaines scientifiques ni artistiques. Les œuvres de Bruno Guénard et de Denis Chavigny, exposées au MOB, peuvent être une révélation, une prise de conscience, une transformation. Elles peuvent être cette étincelle qui déclenche, pour chacun, un intérêt émergent pour les enjeux écologiques, ou mieux encore, l'élan pour agir.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Cette nouvelle émission vous a été présentée par Fernanda Nayeli Lopez Veloz. Vous pouvez retrouver l'article écrit par notre journaliste citoyenne sur le site laredacpop.org. N'hésitez d'ailleurs pas à y faire un tour pour découvrir nos autres contenus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la Rédac Pop, toujours le samedi à partir de 15h. Passez une excellente journée sur les ondes de Radio Campus Orléans, le 88.3 FM.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop. Hey!
Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas, docteur ?
Ouais.
Thank you. je les referai.
Don't you know I need it all?
siéntate a mi vera, escucha mi lamento. Oh, oh. En esta melodía yo voy a expresar todos mis sentimientos. Oh, estar siempre a tu lado, cogido de la mano, y eso es lo que quiero. Oh, bajo la misma luna, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo.
Hay palabras que defina todo el amor que se te tiene, Dios mediante, provocante, sirviéndonos de testigo. Bajo el mismo cielo, soñando que estás conmigo.
Mi negro echa pa' acá, te voy a explicar todo lo que siento.
Que estás conmigo.
Me he quedado sentada en la misma clase, en el mismo puerto.
Que estás conmigo.
Forma parte de
que hay una y es pa' que gana. A la buena, buena, a la mala, mala. A la buena, buena, a la buena, buena. A la mala, mala, a la mala, mala. Punta de pan, agua y dominó. Bajo el mismo cielo, justo y pecador. Afro. A la buena, buena, a la buena, buena. No hay palabra que defina todo el amor que se te tiene, Dios mediante, provocante, sirviéndonos de testigo. Bajo el mismo cielo, soñando que estás conmigo.
Estás conmigo.
Me he quedado sentada en la misma casa,
en el mismo cuarto.
Que estás conmigo.
Forma parte del juego, el mundo es pequeño como un pañuelo.
Que estás conmigo.
Quedamos atrapados bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo.
Que estás conmigo.
Y me cancha pa' acá.
Que estás conmigo.
Y me cancha pa' acá.
Now, here comes the music.